Aujourd'hui à Rencontre, l'évolution est-elle le fruit du hasard ? Avec Christian Montenat. Christian Montenat, qui est géologue, est l'auteur d'un ouvrage extrêmement intéressant intitulé « Pour lire la création dans l'évolution » paru aux éditions du Cerf. Ont collaboré aussi à cet ouvrage Luc Plateau et Pascal Roux. Christian Montenat est interviewé par Marcel Brisebois.
Christian Montenat, vous avez collaboré à un ouvrage intitulé « Pour lire la création dans l'évolution ». Alors, ce qui m'a étonné, c'est que vous êtes géologue et vous traitez de l'apparition de la vie. En quoi votre discipline, la géologie, vous permettait-elle d'aborder ce problème qui me semblait plutôt être de la compétence d'un biologiste ?
Non, je ne crois pas, parce que la géologie a une place tout à fait à part dans les sciences. On est au carrefour des sciences de la matière et des sciences de la vie. C'est ce qui fait pour moi vraiment le très grand intérêt de la géologie. On est au carrefour des sciences de la matière. Quand on s'intéresse à l'origine de la Terre, eh bien on entre tout de suite dans l'astrophysique. Notre système solaire, il est assez récent, il a 4 milliards 600 millions d'années, mais c'est le dernier venu, mais il est quand même assez ancien par rapport à l'origine de l'univers, 15 milliards d'années, ça fait le rapport de 1 à 3, donc ça reste dans le même ordre de grandeur. Quand on étudie les minéraux, quand on étudie la formation des roches, on est toujours dans ces sciences de la matière. Et puis, très rapidement, on s'intéresse aux sciences de la vie avec les fossiles, dont nous faisons un usage courant pour dater les terrains. Pour chercher du pétrole, il faut des fossiles, il faut donc les vies anciennes pour nous aider à trouver le pétrole. Le pétrole lui-même est fait par l'accumulation des vies anciennes. Et puis, de fil en aiguille, on arrive à d'autres fossiles que sont les hommes fossiles, et puis on s'intéresse à la préhistoire. Et puis on arrive à l'anthropologie, et donc, pour peu qu'on ait un peu une vocation de généraliste, c'est-à-dire qu'on ne reste pas enfermé dans un domaine technique très pointu, la géologie est véritablement un carrefour de centres d'intérêt.
Mais venons-en tout de suite au cœur du sujet, Christian Montenat. Qu'est-ce qui a permis l'apparition de la vie ?
Qu'est-ce qui a permis l'apparition de la vie ? C'est d'abord une longue maturation antérieure. On en parlera sûrement, mais ça n'est pas un hasard. Si on essaye actuellement, et c'est une chose que Teilhard avait déjà bien senti, de dresser une espèce de bilan de cette histoire de l'univers, on s'aperçoit que depuis ses origines, il y a à peu près 15 milliards d'années, on discute, c'est 15, c'est 18 milliards, mais on ne va pas chipoter pour 3 milliards d'années. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire d'une matière, d'une énergie matière qui se complexifie de plus en plus. Un petit peu comme ces jeux de construction où on ajoute les éléments simples les uns aux autres et on arrive à des systèmes de plus en plus complexes. D'une certaine manière, on peut dire que la vie était inévitable.
Est-ce que nous sommes là, enfin, c'est la seule planète, la Terre, où il y a de la vie ou si on peut penser qu'il y a de la vie ailleurs ?
Scientifiquement, on ne répondra pas à la question parce qu'on n'a pas de preuves. Mais si on fait des hypothèses, il est tout à fait logique d'imaginer qu'il y a d'autres vies dans d'autres planètes, d'autres systèmes solaires, des formes de vie qu'il ne faut pas chercher identiques à la nôtre, parce qu'il peut y avoir d'autres organisations du vivant, mais statistiquement, c'est tout à fait vraisemblable.
Et vous avez dit tout à l'heure, n'est-ce pas, que la vie n'était pas le fruit du hasard, évidemment, c'est la question. Comment se fait-il qu'il y a de la vie ? Est-ce que c'est le fait du hasard et de la nécessité, comme a pu dire un savant biologiste, ou bien
oui.
S'il y a une explication autre que celle-là ?
Dans une explication. Expérimentalement, en laboratoire, bien sûr, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait un vivant. Mais on est quand même allé très loin, depuis les années d'après-guerre, pour reconstituer les briques, les matériaux élémentaires qui permettent de constituer un vivant, c'est-à-dire ces grosses molécules qui, assemblées les unes avec les autres, vont permettre de faire le vivant élémentaire. Est-ce qu'on arrivera un jour à faire un proto-vivant, une forme très très primitive de vivant comme peut l'être un virus ? On ne peut pas l'exclure, ça n'est pas le cas actuellement. Mais on commence à bien comprendre comment cette matière, en se complexifiant, en s'assemblant, particules élémentaires qui vont donner des noyaux qui vont s'organiser en atomes, des atomes qui vont donner des molécules simples, des molécules plus complexes. Ces molécules plus complexes, comme ces jeux de construction qu'on assemble, qui vont donner les macromolécules et puis qui arrivent jusqu'à cette énorme macromolécule qu'on appelle la chaîne d'ADN et qui est l'élément fondamentale du vivant. Alors le problème du hasard, c'est un problème qu'on met souvent en discussion. Je crois que la question est souvent mal posée. Le mot hasard recouvre des tas de choses pour les gens quand on joue au dé, quand on joue au loto, quand on fait des paris sur les courses. Mais le vrai hasard dans l'univers, ça serait qu'il n'y ait pas de loi. Or, on s'est aperçu, quand on essaye de reconstituer cette histoire de l'univers, que l'univers est apparu avec ses lois. Il y a peu de lois. Les lois de la physique, il y en a trois. Les physiciens pensent qu'un jour, on pourra même unifier ces lois. C'est en tout cas une des conceptions actuelles, en une seule loi fondamentale de la physique. L'univers est livré, en quelque sorte, clé en main avec ses lois. Et à partir du moment où il y a ces lois, les choses se déroulent suivant ce que permettent ces lois. Et imaginons qu'on fasse des univers expérimentaux, qu'on se mette dans un laboratoire, vouloir refaire un univers. En prenant les mêmes lois, on peut imaginer, en y passant beaucoup de temps, il faudrait attendre pas mal de milliards d'années, qu'on arriverait probablement à quelque chose de comparable à ce que nous connaissons. Le vrai hasard, à mon avis, ça serait l'absence de lois, ou des lois qui changent, ce qui reviendrait au même. Par exemple, que la pomme de Newton, un beau jour, ne décide de ne plus descendre à chaque fois qu'elle tombe, mais de partir à l'horizontale ou de remonter. Là, on entrerait dans le véritable chaos.
Je ne voudrais pas entrer dans une discussion avec le professeur Monod, mais Monod ne disait pas uniquement le hasard, il disait le hasard et la nécessité. Est-ce que, quand vous parlez de loi, est-ce que ce n'est pas la nécessité dont parlait Monod ?
Les lois, c'est la nécessité, mais le hasard là-dedans, le hasard, il y a aussi une approche du hasard qu'on a eue à partir de des découvertes de la physique, des conceptions de la physique quantique, où on dit qu'une particule, maintenant on n'est plus capable de la situer avec précision, elle est hypothétique, elle a une localisation aléatoire, mais c'est vrai au niveau de la micro-nanophysique. Mais au niveau des macro-événements, et quand on va voir se dérouler l'histoire de l'univers, on s'aperçoit qu'il y a une organisation, qu'il y a des départs dans des voies un peu divergentes. Ça n'est pas une chaîne, c'est plutôt un buisson qui se développe et qui s'épanouit. Mais tout ça me paraît extrêmement polarisé, dans le sens qu'il y a un pôle, il y a une direction générale.
Une direction qui est l'homme. Est-ce que je me trompe ?
Une direction qui est l'homme. Il faut prendre un arbre, on disait un buisson, prenons un gros arbre. Il y a un tronc, il y a des basses branches, il y a même des branches mortes, il y a des dinosaures qui sont morts. Et puis malgré tout, dans tout arbre, il y a un bourgeon, il y a une petite feuille qui est toujours au sommet de l'arbre. Et actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est l'homme qui occupe cette position. Si on essaye de rassembler tout ce que nous pouvons comprendre de cet enchaînement de faits dans l'histoire de l'univers, dans sa dimension historique, c'est l'homme qui est ce petit bourgeon actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est une feuille définitive, elle va croître, elle va se développer, elle tombera un jour, il y aura peut-être autre chose.
Donc l'évolution est en devenir, elle n'est pas arrêtée, et si l'homme est actuellement le dernier maillon de cette chaîne, enfin la dernière feuille de cet arbre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore d'autres feuilles.
Oui,
plus
alors
parfaite.
Plus parfaite, différente. C'est une chose qu'on verra se devenir, c'est un point très important, parce que c'est là où les réflexions qu'on peut avoir sur les sciences nous aident à avoir une réflexion également sur le plan de la foi, sur le plan religieux. Se devenir, c'est quelque chose de très important. On a passé des siècles dans la conception d'un monde qui est statique, d'un monde qui est figé, qui est donné une fois pour toutes.
Alors c'est ça qui évidemment est la gloire de l'homme, son intelligence. Mais est-ce qu'on peut penser que justement il y a eu une intelligence antérieure, une intelligence non humaine qui est à l'origine de tout cela ?
Intelligence non humaine, c'est-à-dire intelligence divine.
Oui.
Alors là on change de plan, on quitte le domaine de la science parce qu'il n'y a aucun microscope qui nous permet pour l'instant de déceler la présence divine dans l'univers. On quitte le domaine de la description des faits. Ce que nous pouvons faire, c'est de décrire cet univers, de montrer cette complexification d'abord de la matière qui arrive à la vie, et puis ensuite cette vie qui à son tour va se complexifier. C'est un petit peu, Teilhard l'avait bien vu, comme une spirale qui monte. C'est-à-dire, ce n'est pas un cercle qui repasse toujours au même point, c'est une spirale qui monte avec comme un pas de vis, avec des degrés d'organisation toujours de plus en plus complexes. Alors, la place de Dieu là-dedans, est-ce que ça reviendra à dire que c'est un univers qui tourne tout seul et que, ma foi, il n'a pas besoin de Dieu ? L'idée qu'on peut se faire quand on est à la fois scientifique et quand on est croyant, quand on voit ce développement, ce déroulement de l'histoire de l'univers, c'est que l'évolution que nous voyons, que nous constatons, tous les scientifiques sont d'accord, croyants ou incroyants, sur cette évolution, pour nous, c'est en quelque sorte les modalités d'application du projet divin. Il y a un projet d'amour initial, il y a un univers matériel qui est lancé, et puis qui s'épanouit sans intervention, sans interventionnisme divin particulier. Quand on a l'occasion de faire des conférences ou des sessions sur des thèmes approchant celui-ci, il arrive toujours un moment où quelqu'un dit « Oui, bien sûr, il y a l'évolution, c'est vrai, les choses se transforment, mais monsieur, quand même, la vie, quand la vie est apparue, c'est que Dieu... » Non, Dieu ne bricole pas sa création, Dieu n'intervient pas lui-même dans la création. Cette première cellule vivante, elle est le fruit d'un long processus d'évolution dont on peut commencer à décrire les étapes. On dit « Oui, monsieur, mais l'homme quand même. » Ben, l'homme, c'est un primate qui un jour a eu l'idée de se mettre sur ses pattes de derrière et qui en a eu toutes les conséquences que l'on sait.
Et non seulement qui a eu l'idée de se mettre sur ses pattes de derrière, mais qui y est demeuré.
Qui est demeuré.
Ça n'allait pas de soi qu'il y demeure. Qu'un primate se dresse une fois, mais que finalement il y ait de l'acquis dans ce domaine-là.
Oui, ça c'est un sujet sur lequel actuellement on n'est pas très à l'aise. On est capable de décrire le processus mécanique de l'hominisation, c'est-à-dire comment un primate s'est mis sur ses pattes de derrière et quelles ont été les conséquences, c'est-à-dire une transformation, une réorganisation complète de l'anatomie. Pendant 200 millions d'années, on a marché à quatre pattes. Pendant 200 millions d'années, l'évolution a tout fait pour que cette marche à quatre pattes soit la plus efficace possible. Puis un beau jour, il a fallu qu'un primate, pour une cause qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra probablement jamais, enfin, l'événement précis, on aura bien du mal à le saisir, ce primate s'est dressé sur ses pattes de derrière, ça entraîne une remobilisation, une transformation complète de son anatomie, avec des conséquences incalculables qui vont aller jusqu'à l'apparition de la conscience réfléchie et de l'esprit.
Oui, car il n'y a pas que la transformation de l'anatomie, il y a la transformation du psychisme également.
Oui, mais ce qui me paraît une chose assez surprenante et enthousiasmante, c'est de voir que, dans la mesure où nous sommes hommes enthousiasmants, on peut le postuler, c'est de voir que à partir d'un phénomène purement mécanique, un animal qui se dresse sur ses pattes de derrière, on en arrive à un homme qui est capable de regarder son créateur en joignant les mains et en regardant le ciel. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant.
Mais là aussi, vous faites un saut.
Oui.
Tout à l'heure, vous me reprochiez de faire un saut.
Bien sûr.
Vous en faites pas, vous aussi, à votre tour.
Oui, parce que ce qui nous avait animé dans ce petit ouvrage, c'était le souci de cohérence. L'esprit humain est un. Il y a des jours où on va à la messe et puis des jours où on est au laboratoire. Mais l'esprit humain est un. Et il nous semblait important de vaincre cette tendance qui a été longtemps celle de beaucoup de catholiques, d'avoir une pensée religieuse et puis une pensée profane. Je pense qu'il n'y a qu'une seule pensée, et ce qui me paraît vraiment stupéfiant et extrêmement enthousiasmant, c'est de voir qu'on peut mêler, en faisant toujours très attention, quand on fait un cours, évidemment, on ne va pas mélanger les deux plans. Mais quand on parle comme on le fait maintenant, je pense qu'on ne peut pas toujours faire le tri de ce qui est les simples données d'observation et puis de ce qui est ce qu'on a intimement au fond de soi et de s'apercevoir que les choses sont étonnamment cohérentes. L'homme a un besoin de cohérence. Il ne faut pas que l'homme soit éclaté entre l'homme qui va au supermarché et puis l'homme qui, de temps en temps, pense à Dieu.
Ben, je vous pose la question peut-être un peu brutalement, mais pour vous qui regardez la Terre, qui regardez l'évolution de la planète et l'apparition de la vie et l'évolution de l'homme et son devenir, qu'est-ce que ça vous donne de croire en un Dieu créateur? Bon, on a dit souvent que ça nous dispensait justement de prendre des responsabilités, que ça nous mettait dans un état d'infantilisme, etc.
Bon, là,
qu'est-ce que ça vous donne?
La première chose, c'est de dire que de toute façon, on ne va pas à la fois par la science, de même qu'il est bien établi maintenant que la science n'enlève pas la foi. Ça, c'est un vieux débat qui à mon avis, est clos. On ne va pas à la fois par la science, parce que ça serait trop simple, il suffirait de s'inscrire en université pour être croyant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien d'abord, la géologie nous met dans une position tout à fait particulière. Les géologues sont des observateurs privilégiés parce que nous avons la notion du temps. Nous avons cette notion de perspective, 4 milliards 600 millions d'années, on a le temps de faire quelque chose dans 4 milliards 600 millions d'années.
Oui, en tant qu'un historien, quoi.
un million d'années, c'est peu de choses. Pourtant, 1 million d'années, pour nous, c'est l'unité. Le jour, qui est le jour de notre calendrier, pour nous, c'est à peu près 1 million d'années. Si vous voulez avoir l'idée de ce que c'est qu'un million d'années, il faudrait répéter pendant 50 000 fois le père du père du père, ça fait à peu près 50 000 générations. On mettrait assez longtemps à faire cette énumération. Mais c'est ce qui fait que, en général, le public n'a pas tellement la notion des temps géologiques. Quand on dit 200 millions d'années, les gens nous regardent en disant « Oui, si vous le dites, c'est que c'est vrai ». Mais cette perspective du temps est extrêmement importante. L'évolution se déroule dans des temps qui sont très longs. Pour l'instant, 4 millions d'années pour le seul primate qui s'est mis debout. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé que ça puisse être des durées pareilles. Alors cette première notion, cette perspective du temps, et puis d'autre part la dynamique, comme on le disait tout à l'heure, tout est toujours en devenir. Il n'y a rien de stable. L'univers n'est pas donné une fois pour toutes, il n'est pas créé une fois pour toutes. Les montagnes, les mers, les continents, tout change, tout bouge, tout se transforme dans le temps. Donc la dynamique d'une part, le temps d'autre part, une dynamique qui se déroule, qui se développe dans des temps extrêmement longs.
Mais je sais pas, mais il me semble que moi, en tout cas, dans votre situation, j'aurais l'impression d'être vraiment peu de choses et de me dire qu'est-ce que ça donne, n'est-ce pas, je n'y peux rien, tout ça, ça se passe en dehors de moi, je suis que le jouet alors de force qui me dépasse totalement.
Ah, le jouet de force qui me dépasse certainement, je n'arriverai jamais à stopper l'écartement de l'Europe et du Canada, ça, je ferai tout ce que je pourrais pour, je n'y arriverai pas. Je n'arrêterai jamais l'éruption d'un volcan, c'est certain. Mais par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de comprendre ça, d'entrer là-dedans, d'essayer de comprendre cette évolution de l'univers. Et ça, il faudrait plus que bien des vies pour y arriver. Et rien que ça, ça justifie une aventure humaine.
Monod, à partir de ses découvertes, en tout cas à partir de ses positions, avait développé une éthique. Est-ce que vous êtes amené à développer une telle éthique?
L'éthique de Monod était très comparable à celle de Camus. Hein, personnages qui sont du même courant de pensée. Moi, il y a deux personnages qui m'ont beaucoup marqué du point de vue philosophique, c'est Camus d'une part et Teilhard d'autre part. Ce sont deux personnages qui ont beaucoup de ressemblances par certains côtés, mais il y en a un qui croit au ciel et l'autre qui n'y croit pas. Il y en a un qui se dit que sa dignité d'homme, c'est de faire son travail sur Terre, c'est l'admirable livre que représente La Peste, hein, le discours dans La Peste entre le médecin et le prêtre est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis il y a Teilhard qui, avec les mots d'une époque, avec un lyrisme qui est un peu dépassé, a essayé de nous brosser une image en nous disant, bien sûr, on a à être debout comme le primate, on a à faire notre œuvre, mais c'est en vue de, c'est dans un devenir. Alors que Monod, comme Camus, et c'est d'ailleurs là-dessus que se termine le bouquin de Monod, c'est le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire que sans arrêt, on va remonter notre rocher et toute notre dignité est enclose dans ce fait qu'on ne lâchera pas le morceau et à chaque fois, on remontera absurdement ce rocher. Alors qu'avec Teilhard et bien d'autres, on se dit, ben, non seulement on a peut-être à porter un rocher, mais on le porte vers quelque chose, vers quelqu'un, vers un devenir.
Mais de façon concrète, qu'est-ce que ça peut être votre projet humain? Parce que ça m'apparaît bon, assez métaphysique, assez vague. Enfin, Christian Montenat, vous n'avez pas, vous, 10 millions d'années. Vous avez quoi, 50 ans, 60 ans devant vous, au maximum? Quel est votre projet humain?
Oh bah déjà, quand je suis tout seul en mission, quand on chemine, que ce soit sur les rives de la mer Rouge ou comme c'était dans le temps en Afghanistan, qu'on a le temps de réfléchir parce que les cheminements sont longs, ben... Déjà, le fait de se dire qu'on appartient à cette aventure, rien que ça fait chaud au cœur. Les montagnes étaient là avant moi, elles seront là après moi ou d'autres. Cette vie est en devenir, et moi, je suis là-dedans. Je suis pris, j'ai la chance d'être dans cette espèce de cordée, de foule là, qui se presse et qui évolue. Rien que ça, c'est quelque chose qui, pour tout ce qu'on fait dans la vie, donne vraiment du sel et donne du prix.
Avez-vous l'impression que dans la conjoncture actuelle, l'homme a une responsabilité plus grande à l'égard de la vie, à l'égard de la Terre?
Oui, disons, bien sûr, mais ça, c'est tous les problèmes de maltraités, généralement sous le label de problèmes écologistes, pour une part, problèmes de partage des ressources naturelles. Mais ça, disons qu'il n'y a pas besoin d'envisager l'univers sous cet aspect pour tout simplement, avec bon sens, s'apercevoir qu'il n'y a pas lieu de gaspiller ni les hommes, ni les ressources naturelles, ni les animaux, ni tout ce qui nous entoure. Disons que ce sont des choses, finalement, cette responsabilité de l'homme, elle est évidente. On nous dit que nous détruisons les grands animaux, c'est vrai, il faut quand même se rappeler que les baleines, d'autres, ça a commencé il y a très tôt. Il est probable que certains des grands mammifères de l'ère quaternaire sont déjà disparus à cause de l'homme. Je pense aux mammouths, je pense à quelques autres animaux de ce genre. Il est fort probable que dès cette époque, l'homme a eu, en tant que prédateur, parce qu'il ne joue pas à égalité avec les autres animaux, il a son cerveau en plus, donc le jeu est faussé. Et qu'en très peu de temps, un être humain comme l'homme de Cro-Magnon dont on parlait tout à l'heure est capable d'un impact extraordinaire sur l'univers. Il faut donc avoir sur l'univers, sur la Terre pour l'instant. Mais qui sait si on ne va pas déborder un petit peu ce cadre dans quelques siècles. Et par conséquent, il faut avoir conscience à la fois de ces problèmes et essayer de les maîtriser. Dans son dernier livre, je crois, Hubert Reeve, qui est le vulgarisateur si tant aimé en France, parce que c'est vraiment un homme de grande qualité et qui a fait beaucoup pour la vulgarisation dans ce domaine, dans cette vision qu'il peut apporter de l'univers, il opposait hominisation et humanisation. Étymologiquement, ça n'a pas de sens parce que ce sont deux mots qui sont pareils, mais il y a beaucoup à réfléchir sur cette chose-là, parce que l'hominisation, on sait à peu près ce que c'est toutes ces modalités qui ont fait que le primate qui s'est mis debout, finalement, est arrivé à l'homme. Mais ce à quoi on peut réfléchir, c'est que normalement, le destin normal de cette hominisation, ça pouvait être, et c'est d'ailleurs en partie le cas, la création d'une super brute. D'où la nécessité qu'intervienne un deuxième processus évolutif, qui est celui de l'humanisation. Et c'est là où on divergera probablement avec les gens qui n'ont pas notre foi, c'est que dans cette humanisation, eh bien nous mettons la révélation et que s'ouvre alors un chapitre tout à fait nouveau dans l'histoire de l'univers.
Mais qu'est-ce cet autre volet, pour vous, vous l'avez bien dit, est un volet qui relève de la foi, qui n'a rien à voir avec votre science.
Si, ça a à voir avec la science.
Qu'est-ce que ça a à voir?
Je constate une chose, c'est que l'évolution des vertébrés, pour ne prendre que vraiment les dernières années de l'histoire de l'univers, c'est-à-dire les derniers 200 millions d'années, une période très courte, toute l'histoire de ces vertébrés, ça a toujours été vers le passage des poissons aux premiers batraciens, c'est-à-dire actuellement les grenouilles, et puis de ces batraciens aux reptiles, comme les lézards actuels, et puis ensuite aux premiers mammifères. Toute cette évolution que nous pouvons suivre maintenant pas à pas, qui est quelque chose de bien, qui commence à être bien connu, ça se fait toujours dans le sens du développement de ce qu'on peut appeler le relationnel, c'est-à-dire d'êtres qui sont toujours plus efficaces vis-à-vis de leur milieu, dans les relations qu'ils entretiennent avec leur milieu, qu'ils entretiennent avec leurs congénères ou d'autres êtres vivants, ou qu'ils entretiennent finalement avec eux-mêmes. Donc pendant toute l'histoire de ces vertébrés jusqu'à l'homme, se développe ce relationnel. Les premiers poissons, c'était de véritables ventouses qui étaient collées sur un rocher, ils avaient une carapace en os, ils ne craignaient pas grand-chose du milieu, mais ils ne pouvaient rien sur lui, ils étaient parfaitement passifs. Puis un jour, ils ont pris le risque, ils sont devenus des poissons avec des nageoires, capables de se mouvoir dans le milieu, avec des mâchoires, capables d'être donc agressifs sur ce milieu. Puis un beau jour, ils ont eu l'idée de se dire qu'il y avait des terres émergées, qu'il fallait aller voir ce qu'il y avait dessus. Ils sont devenus batraciens, ils ont débarqué sur la terre ferme, ils étaient très balourds, ils étaient toujours obligés de revenir dans l'eau pour aller se reproduire, comme le fait la grenouille actuellement. Puis un beau jour, ils sont devenus reptiles. Ils se sont dit que c'était trop embêtant de revenir toujours pondre là où il y avait de l'eau. Il n'y avait qu'à mettre simplement l'eau dans son œuf et on pouvait aller pondre n'importe où, dans le désert, par exemple. C'est ce qui fait que les déserts sont peuplés de quantités de reptiles, alors qu'on n'y rencontrerait pas un batracien. Et puis, il restait quand même des régions, comme les zones froides ou les zones à variation de climat importantes. Il fallait arriver à vaincre ce problème, la relation avec ce problème de température. Et est arrivé le mammifère, et par ailleurs l'oiseau, qui ont réglé ce problème en se dotant d'une température constante et de poils pour les mammifères ou de plumes pour les oiseaux, qui leur font une sorte d'enveloppe protectrice qui les isole des variations de température. Donc toute l'histoire des vertébrés, jusqu'au premier primate, c'est un développement constant d'un être qui prend de plus en plus d'autonomie par rapport à ce milieu extérieur et qui a des relations avec ce milieu extérieur, avec ses congénères, de plus en plus efficace. Et l'histoire des Lominiens, ça va être la même chose, mais qui va se transposer sur un autre plan.
Quand vous faites toutes ces études, quand vous faites toutes ces recherches, est-ce que il vous arrive d'être emporté par un sentiment d'admiration qui se transforme en prière?
Oui, je ne prie pas devant un squelette de dinosaure, mais devant tout ce que représente cette évolution, oui. La prière, il faut s'entendre, la prière, on ne se met pas forcément à genoux, on n'est pas forcément dans une église, ça peut être une pensée fugace qui dure une minute, quelques minutes. Mais oui, c'est fréquent. C'est surtout fréquent quand on est en mission, quand on est dans des zones où après beaucoup de semaines de calme parce que et de régime alimentaire plutôt sévère, eh bien, on acquiert un certain ascétisme tout à fait passager. Et ça facilite, oui, la prière certainement beaucoup.
Prière de louange, prière de remerciement, ou coïncidence d'un esprit avec un esprit supérieur?
Louange, remerciement, oui. Louange, je suis toujours gêné par la louange, bien sûr, mais je pense que Dieu n'attend pas tellement mes louanges, mais surtout, ce qui me revient souvent dans la prière, c'est de demander la grâce et la force de participer à cette affaire, d'être à ma place dedans. C'est ça qui me paraît le plus important. De ne pas louper mon petit passage fugace dans l'univers et d'essayer de, pendant le peu de temps que ça va durer, d'en profiter, de voir, de bien comprendre ce que c'est que cette aventure et d'y participer.
Christian Montenat, je vous remercie.
Rappelons que Christian Montenat, qui est géologue, a publié en collaboration avec un biologiste, Luc Plateau, et un prêtre, Pascal Roux, Pour lire la création dans l'évolution aux éditions du CERF. On aura profit à lire aussi Du Big Bang à l'enfant par Pierre Chaunu, ce célèbre professeur d'histoire à la Sorbonne qui est passionné d'astrophysique. Ce livre est paru chez Desclés de Brouwer en 1987. Et enfin, un ouvrage capital de Claude Tresmontan, L'histoire de l'univers et le sens de la création, paru aux éditions de l'Œil aussi en 1987.